France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and Inderhausi.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Imaginez un prof en Russie chargé de cours vidéo dans une petite ville loin de Moscou et puis subitement en février 2022, on lui demande d'être un agent de propagande pour la grandeur de la Russie. Il a quitté depuis clandestinement son pays, mais pas sans ses images. Son film raconte comment les enseignants sont instrumentalisés, les élèves soumis à un lavage de cerveau. Le réalisateur de ce film est notre invité dans un tout petit instant. Comment la France tente d'éviter le camouflet total sur le Mercosur ? C'est le monde à l'endroit de Frédéric Seiss. Le reportage ce soir est au nord de la Cisjordanie avec ces Palestiniens dont les maisons sont systématiquement détruites par l'armée israélienne.
Je fais partie de ces femmes qui souffrent rien qu'à cause du mot déplacement. Je le déteste. Celui qui ne l'a pas vécu ne pourra jamais nous comprendre.
Un reportage signé Alice Froussard à découvrir ensemble autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé la Belgique et le tollé provoqué après le projet de démantèlement du plus vieux musée d'art contemporain. Et puis dans Écrire le Monde, Ilana Mor-Youssef a vu qu'en Chine, le gouvernement impose une taxe sur les moyens de contraception pour lutter contre la dénatalité. Vous découvrirez ce qu'elle a relu pour l'illustrer. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va.
Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1.
Bonsoir Pavel Talankin.
Bonsoir.
Votre film dont on vient d'entendre la bande-annonce s'appelle Mr. Nobody Against Poutine. Mr. Nobody, c'est vous. En français, on dirait Monsieur Tout-le-Monde ou Monsieur Lambda. Vous étiez vidéaste dans une école de Karabakh. C'est une ville industrielle de l'Oural, dans une école comme il y en a des milliers, une ville de 10 000 habitants. Et vous dites combien vous aimiez votre ville, vos élèves, votre métier. Mais vous avez réalisé, on va expliquer comment au cours de cet entretien, vous avez réalisé que le pouvoir russe, dès l'invasion de l'Ukraine, a cherché à faire entrer sa propagande dans les écoles et que vous étiez, vous, cet instrument. Et vous avez retourné contre le régime cet instrument en faisant sortir ce que vous avez filmé avec la complicité d'un réalisateur américain. Il y a ce moment qui m'a vraiment frappé dans votre film, qui m'a même ému. Vous êtes face caméra et vous dites littéralement « j'étouffe ». Les murs se referment sur moi. C'est ça votre sens. Vous manquiez d'air.
Oui,
c'était exactement comme ça. En fait, c'est très difficile quand tu as envie de parler, mais quand tu ne peux pas trouver une personne à qui tu pourrais parler, avec qui tu pouvais t'entendre et parler sur ces sujets-là. En Russie, beaucoup de personnes ont peur de s'exprimer sur la guerre et il y a d'autres personnes qui la soutiennent même.
Vous racontez dans votre film que du jour au lendemain, littéralement, les profs, après le 22 février, les profs ont reçu des instructions, un protocole, des lettres de glorification de la Russie qu'il fallait lire, des poèmes patriotiques que les enfants devaient lire, et vous deviez filmer tout ça. Mais ce qu'on sent quand même, Pavel Talankin, c'est jusqu'à quel point personne n'est dupe. Les profs ont même du mal à prononcer certains mots. Donc à ce moment-là, personne n'y croit, en fait.
Oui, effectivement, on a commencé à recevoir des lettres, des ordres du ministère de l'Éducation à partir du 14 mars, donc quasiment dès le début de la guerre, juste quelques semaines après le début de la guerre de Grand Rapport. Et vous savez, les professeurs, effectivement, il y en a certaines personnes qui n'arrivent pas à prononcer ces mots, démilitarisation, dénazification, mais ils ne doivent pas les connaître, ces mots-là, et ils ne sont pas obligés de les connaître. Ces mots-là, ils ne font pas partie de leur lexique. Donc, je pense que ces mots-là devraient être prononcés plutôt par des amiraux, des généraux, mais pas par des professeurs. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon film, c'est une professeure, une personne qui est devant sa classe et qui n'arrive pas à prononcer ces mots, parce qu'elle n'a pas l'obligation de les connaître, ces mots-là. Et effectivement, il y avait des professeurs qui étaient sceptiques à tout ce qu'on leur disait de faire, de dire, mais ils le faisaient, ils le disaient. Et il y avait d'autres professeurs qui étaient enthousiastes, disons, par rapport à ce qui se passait, y compris dans les écoles.
Il y a cette scène incroyable, moi, qui m'a beaucoup marquée, parce que vous dites que certains enseignants n'étaient pas dupes, mais les élèves élèves évidemment encore moins. Il y a cette enseignante qui doit donc lire un texte de propagande et les élèves sont hilares. Ils lui disent même, si vous êtes obligé, clignez de l'œil. Ça dit quand même jusqu'à quel point personne ne prenait cette propagande au sérieux.
Vous savez,
la propagande,
elle fonctionne.
Ce
que je peux vous dire, malheureusement, la propagande fonctionne. Et elle vise plutôt les personnes, les tout jeunes enfants, en fait. Et eux, ils sont plus susceptibles à cette propagande. Donc, bien sûr, les personnes qui sont plus âgées, les ados, ils comprennent d'où ça vient, d'où viennent ces conversations. Et ils savent ce qui s'est passé. Ils savent ce qui s'est passé autour de la Russie et ce que la Russie a commis, pourquoi on a commencé à parler de tout cela. Mais les tout petits enfants, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc eux, malheureusement, ils sont susceptibles à cette propagande et malheureusement, ils la croient.
Ce qu'a réussi à faire le régime et que vous montrez très bien dans votre film, puisqu'on vous demande d'envoyer des preuves vidéo que la propagande est bien diffusée, mais au fond, il n'y a jamais un officiel russe dans cette ville et vous ne savez même pas où vous les envoyez, ces vidéos. Mais peu à peu, vous constatez que plus personne ne peut plus faire confiance à personne. Et ça, ça monte doucement. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'un officier russe pour ça. C'est entre vous que ça monte doucement.
Oui, exactement. Et c'est exactement ça que je voulais montrer, c'est que, par exemple, certains professeurs étaient sceptiques, ils ne voulaient peut-être pas en parler, mais tu ne sais jamais, en fait, qui peut te dénoncer. En Russie, actuellement, il y a beaucoup de dénonciations. Et ces dénonciations sont écrites par des professeurs sur les enfants de leur classe ou des élèves qui dénoncent leurs professeurs. Donc, un professeur, par exemple, qui s'est exprimé un peu différemment, qui a exprimé son opinion. Mais donc, oui, effectivement, tout le monde a peur. Tout le monde vit dans cette peur. Et c'est de ça que je parle.
Et c'est même triste, d'ailleurs, hein, dans votre film, parce que vous vous en rendez compte vous-même, peu à peu, tous les élèves qui allaient dans votre classe, parce que c'est l'endroit où on boit du thé, on fume des cigarettes, on est tranquille, peu à peu, il y a de moins en moins de monde, en fait. Et ça vous fait même de la peine quand vous le réalisez. C'est ce que j'ai ressenti, moi, en regardant votre film.
Oui, c'était désagréable. Quand ton travail principal change et change dans une sorte de propagande, c'est super désagréable. Je confirme.
Vous, Pavel Talankine, vous êtes Mr. Nobody, vous êtes un Mr. Nobody, vous êtes juste le prof d'une petite ville, et pourtant vous prenez de vrais risques. Les héros sont des gens ordinaires. Vous diffusez l'hymne américain par Lady Gaga à la place de l'hymne russe, c'est hyper dangereux. Vous transformez les Z qui sont sur les fenêtres en X, parce que X, c'est le symbole de l'aide aux réfugiés ukrainiens. Vous déboulonnez le drapeau russe. Est-ce que vous aviez vraiment conscience du risque que vous preniez ?
Non, j'en étais pas conscient. Honnêtement, non. C'était en fait des actes spontanés comme ça. J'avais besoin de m'exprimer et j'avais vraiment besoin de le faire.
Pavel, votre mère, qu'on voit beaucoup dans le film, est très fataliste. Et ce qu'elle vous dit, c'est « Écoute, c'est la guerre. Les garçons adorent se tirer dessus. Toi, t'es un garçon un peu particulier. » Est-ce que vous diriez au fond qu'elle est très russe, votre mère, pour ça ? De toute façon, on n'y peut rien, alors pourquoi faut-il s'en mêler, quoi ?
Elle représente plutôt la mentalité d'une mère, je dirais. Elle parle comme une mère, elle parle comme beaucoup de mères en Russie actuellement, ce qu'elles disent à leurs enfants, tais-toi, ne t'exprime pas, cache-toi, et l'essentiel c'est que personne ne te remarque, donc surtout ne fais pas de vagues. Donc elle, oui, elle s'inquiète pour la sécurité de ses enfants. Elle est comme ça. Et je pense que toute mère, chaque mère est comme ça. Ce n'est pas vraiment une mentalité russe, c'est une mentalité d'une mère. Peu importe le pays où une situation comme ça peut arriver, je pense que toute mère dirait une chose pareille à ses enfants.
Pavel Talankine, le film, il est presque drôle au début, c'est comme ça que vous l'avez voulu. Il y a quelque chose de très ironique au fond, avec les enseignants, on en a parlé, qui patauge dans des textes obligatoires, avec les élèves qui se marrent, avec le recul, vous êtes volontiers ironique, y compris sur vous-même. Et puis les choses changent. drastiquement. On voit même le groupe Wagner qui apprend aux élèves à lancer des grenades. On voit le tragique arriver parce que la guerre devient quelque chose de réel et certains de vos élèves s'en vont. À quel moment, justement, situez-vous le moment où le tragique vous a rattrapé, où on se rend compte, y compris dans cette petite ville de 10 000 habitants, que la guerre concerne aussi mon voisin?
J'ai compris que ça concernait tout le monde, ça concernait chacun d'entre nous. Et un jour, je suis venue dans un établissement culturel, on était en train de préparer une fête ensemble, et justement, la guerre venait de commencer. Et ils étaient très enthousiastes, ils disaient, enfin, ça devait arriver, et enfin, ça se passe, ça arrive. Et je leur dis, mais attendez, vos maris vont revenir dans des cercueils et vous allez peut-être changer la rhétorique. Et vous savez, dans des pays de l'Est, il y a une tradition quand on prépare un enterrement, on prépare un repas spécial et on dit c'est cette halva, donc le repas spécial, et elle est bonne quand c'est pas toi qui la prépare.
Donc voilà.
Et le film, oui, il commence avec du rire et il finit avec des larmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire la même chose. Moi, j'ai assisté à plusieurs projections et les spectateurs me disaient exactement cela. Donc on commençait par rire, mais à la fin, on a plus envie de rire.
Vous le dites souvent hein, dans ce film, vous aimez votre ville, même polluée, vous aimez votre école, vous aimez vos élèves. J'imagine qu'il vous manque, même à l'abri aujourd'hui, cette vie vous manque ou pas ?
Oui. C'est pas facile. C'est difficile de perdre tout ce que tu as aimé, tout ce qui te tenait à cœur. Mais j'ai perdu tout ça avant de partir. Avant que je sois obligée de partir. Je l'ai perdu en février 2022.
Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Pavel ? Est-ce que cette caméra qui vous emmène là où vous êtes aujourd'hui, elle est toujours accrochée à votre poignet ? Qu'est-ce que vous faites de votre vie ?
Ma caméra est avec moi, chez moi, elle m'a accompagnée. Mais pour l'instant, je ne peux pas la prendre dans mes mains. Des fois, j'ai envie de filmer quelque chose, mais là, j'ai l'impression que les bras m'en tombent. Je n'ai plus l'usage de mes mains pour filmer. Donc là, actuellement, on est en post-production. Donc on continue le travail sur ce film pour que un maximum de personnes puissent le voir. Et je suis très heureuse de savoir qu'il va sortir en France dans des cinémas. Et merci beaucoup aux distributeurs, merci beaucoup Karine, merci à France Inter, parce qu'effectivement c'est très important de le voir, c'est très important de le savoir, puisque effectivement j'ai filmé de l'intérieur et du coup vous pouvez voir de l'intérieur ce qui se passe en Russie. Et je pense que mon film répond aussi un petit peu à la question de savoir comment sera la société russe dans 10 ans, dans 15 ans, quand ces élèves qui sont actuellement en classe primaire et qui apprennent à se servir des grenades, bah, peut-être qu'ils seront encore pires que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et effectivement, les temps peuvent être très sombres. Et justement, mon film, je pense, il parle aussi de ce à quoi nous devons nous préparer.
Ben voyez, Pavel, moi, j'allais vous poser une question sur le fait que ce que vous nous montrez, c'est qu'il y a aussi une Russie qui résiste. Et vous, ce que vous nous dites, et à juste titre, c'est que vous avez peur pour la Russie qu'on est en train de former là, au moment où on se parle, à balancer effectivement des grenades et à apprendre une propagande toute faite.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir. Et je prie pour que un jour, on ait un pays où on pourra dire, les gars, tout cela, c'était des mensonges. Tout cela, il faut l'oublier. Et il faut maintenant développer la démocratie. Il faut maintenant développer une société libre, avec des relations libres, avec de la pensée libre. C'est cela qu'il faut faire, et pas la guerre. Et j'espère vraiment que ces temps-là viendront. Mais mon film, voilà, il vous montre ce qu'on vit actuellement. Et effectivement, c'est une preuve aussi qu'on pourra montrer à l'avenir pour dire que que les professeurs, ils ont été obligés, ils ont été forcés de faire de cette propagande. Donc effectivement, j'espère qu'un jour, nous pourrons faire ce travail de réflexion sur nos erreurs et peut-être que mon film pourra aussi y contribuer.
Mr. Nobody Against Putin, je redonne le titre de ce film signé par vous, Pavel Talankin, en collaboration avec le réalisateur américain David Borenstein. Et merci à Anna Surovegina pour la traduction. Merci Pavel.
Merci
Pavel. Merci.
La suite, c'est vous, Frédéric Seitz. Vous remettez le monde à l'endroit.
Et à Bruxelles, vote sur le traité Mercosur. Après-demain, la France peut-elle éviter un camouflet?
Et c'est juste après ça.
Your housing, are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anoint by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me.
Et Idols, les deux groupes anglais qui s'associent pour entrer dans la playlist d'Inter avec The Gods of Flying. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Seitz.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et Frédéric, vous nous parlez du traité avec le Mercosur, donc la France peut-elle encore éviter le camouflet?
Le dossier Mercosur est sur le point d'être bouclé. Celui qui dit ça aujourd'hui, avec, on le devine, une pointe de satisfaction, c'est le porte-parole du gouvernement allemand. Berlin, persuadé que les jeux sont faits à 48 heures du vote crucial à Bruxelles. Autour de la table après-demain, il y aura les représentants des 27 gouvernements européens. Une majorité, emmenée par l'Allemagne et par l'Espagne, votera pour cet accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Certes, l'Italie aurait pu bloquer, mais elle se satisfait finalement des concessions de la Commission européenne, en particulier une avance financière de 45 milliards d'euros pour les agriculteurs européens. L'accord UE-Mercosur présente des bénéfices immenses, dit ce soir le chef de la diplomatie italienne. Résultat, dans le camp du non, la France resterait seule ou presque. C'est une double catastrophe politique pour le gouvernement français. D'abord, à l'échelle nationale, le traité Mercosur est rejeté bien sûr par toute la classe politique de LFI au RN, il est honni par les syndicats agricoles. Son adoption attisera donc la colère. Bruno Retailleau, le chef de la droite LR, menace déjà d'une motion de censure. Catastrophe politique aussi à l'échelle européenne. La France mise en minorité publiquement lors d'un vote, ça n'arrive jamais. Le symbole serait historique.
C'est donc un camouflet total.
Oui, quasiment total. En réalité, la France a tout de même engrangé des victoires, Fabienne, à force d'être inflexible. Paris a forcé la Commission européenne à lâcher du l'Est. Elle a accepté les clauses de sauvegarde qui permettent de suspendre les importations agricoles, en clair un frein d'urgence si on assiste à un déferlement de viande sud-américaine qui bouleverserait les prix. Paris a aussi obtenu le renforcement des contrôles aux frontières et pousse pour la suspension de la taxe carbone sur les engrais. C'est un point très sensible pour les cultivateurs. Mais ces concessions européennes, l'exécutif français n'a pas su les mettre en valeur. Alors pour le vote de ce vendredi, Emmanuel Macron est confronté à un dilemme. Première option, voter pour le traité en soulignant les améliorations récentes. Option très difficile, bien sûr, Emmanuel Macron apparaîtrait versatile et raviverait encore un peu plus la colère agricole. Deuxième option, s'abstenir lors du vote, ce qui passerait pour de l'indécision, voire de l'hypocrisie. Ça ne satisferait ni les opposants ni les partisans du traité, ça s'appelle perdre de tous les côtés. Troisième option, voter contre cet accord avec le Mercosur. La France se trouverait dans le camp ultra-minoritaire aux côtés de la Hongrie et de la Pologne, un compagnonnage contre nature pour Emmanuel Macron, qui n'a cessé de critiquer l'euroscepticisme et les tendances illibérales.
Alors conclusion, Frédéric ?
Politiquement, il n'y a que des mauvaises solutions pour le gouvernement français. Si rien ne bouge, le traité sera adopté, avec ou sans le vote de la France. Il restera malgré tout après le Parlement européen comme étape. Le paradoxe, c'est la différence de regard qui sera portée sur Emmanuel Macron. En France, il sera vu comme le président qui a cédé. En Europe, il sera vu au contraire comme le partenaire rigide qui n'a rien voulu lâcher, perdant sur les deux tableaux.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. On se retrouve demain. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir, c'est un jour en Cisjordanie, au nord principalement de ce territoire occupé dans les camps de Jenin, de Tulkarem, de Nourcham, des lieux où sont installés des réfugiés palestiniens depuis longtemps, mais où Israël envoie aussi depuis presque un an des milliers de Palestiniens déplacés de force, 32 000 à ce jour. Or, dans le même temps, l'armée israélienne démolit les maisons construites dans ces camps, ce qui laisse des centaines de familles complètement démunies. Un exil imposé qui bouleverse les gestes les plus simples du quotidien. Plus de toit, c'est plus d'intimité, plus de repères, surtout dans une société traditionnelle palestinienne. Nous sommes à Tulkarem et le reste, c'est Alice Froussard qui raconte.
C'est du petit salon au canapé imposant et au rideau épais chez ses voisins, à la lisière du camp de Nourchams, que Fatma Nahnariyeh a assisté à la démolition de sa maison, que l'on aperçoit en contrebas. Cette réfugiée palestinienne de 70 ans avait reçu, mi-décembre, un ordre de démolition. Elle n'a eu qu'un court laps de temps pour retourner chez elle, sauver ce qui pouvait l'être.
Tout était saccagé, détruit, et je n'avais même pas encore fini de payer tous les meubles. Les fenêtres étaient toutes brisées, 6 portes en fer explosées. Les soldats avait transformé ma maison en caserne militaire parce qu'elle est à l'extrémité du camp.
Fatma n'a rien pu récupérer avant de voir sa maison réduite à l'état de gravat, seulement une photo de son père. Depuis presque un an, comme tous les habitants du camp de réfugiés, elle a été déplacée de force. Depuis, elle vit seule, s'imaginait revenir vivre dans le camp sans savoir quand. Plus elle raconte, plus ses yeux s'humidifient. Sa maison, dit-elle, c'était toute sa vie.
C'est exactement ce que je ressens. C'est comme imaginer ton enfant mourir devant toi, en sachant en avance qu'il va mourir. Je suis née dans cette maison. Tous mes souvenirs sont là. Ma mère, mon père, toute ma vie est là.
Dans ce camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée, Fatma est loin d'être la seule à avoir perdu l'endroit où elle avait toujours vécu. Rachad, la fille, 25 ans, est mère de 3 enfants. Depuis que sa maison a été démolie il y a 7 mois, sa vie a changé du tout au tout. Elle compte les jours dans cet appartement neuf et froid où elle vit avec 15 autres personnes de sa famille élargie.
Ici, il n'y a pas d'intimité, pas de repos. On ne se sent pas bien entouré non plus. La maison, c'est tout pour un être humain. Là, on doit payer un loyer cher et les écoles sont loin pour les enfants. Et je ne sors pas. Depuis, je reste enfermée dans cet appartement 24 heures sur 24.
Ce sont des femmes comme Fatma et Rahad que Nihaya Al-Joundi essaie d'aider au quotidien. Elle est la responsable du comité populaire pour les services du camp de réfugiés de Nourchams. Elle aussi, à 54 ans, a été déplacée de force. Elle n'a pas vu sa maison depuis environ 10 mois. Et le précise, pour les femmes, toutes ces évictions sont une double peine.
Aujourd'hui, les femmes se retrouvent dans des logements très simples, impropres à l'habitation. Certaines vivent dans des maisons sans fenêtres, où l'on a simplement tendu une bâche. D'autres louent des maisons très anciennes, abandonnées dans les villages par leurs propriétaires, qui ont construit des maisons neuves ailleurs.
Les familles ont parfois été contraintes, ajoute-t-elle, de louer des logements hors de prix, juste pour se cacher, pour se couvrir, pour avoir plus d'intimité.
Aujourd'hui, des femmes viennent et me disent sans cesse « j'ai l'impression d'être à la rue ». Et moi aussi, je le dis, j'ai l'impression d'être à la rue, même quand je suis dans ma maison. Avant, j'étais quelqu'un qui, été comme hiver, prenait une douche tous les matins. Aujourd'hui, je ne peux même plus. Imagine, j'en suis arrivée au point où, par manque d'intimité, j'ai peur de me laver.
C'est ça la souffrance de chaque femme palestinienne déplacée, soupire-t-elle, ici en Cisjordanie, mais aussi à Gaza.
Je fais partie de ces femmes qui souffrent rien qu'à cause du mot « déplacement ». Je le déteste. Je le déteste profondément et je n'aime pas que quelqu'un le répète ou dise que je suis une déplacée. Celui qui ne l'a pas vécu, pas expérimenté, ne pourra jamais nous comprendre.
Beaucoup veulent avant tout aider les autres, confie Nihaya, et ajoute que cela la concerne aussi, parfois, dit-elle, en s'oubliant soi-même.
Alice Froussard pour le reportage. Alice, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est d'abord Sous les radars, qu'on la trouve.
Sous les radars aux États-Unis, où les Latinos, pourchassés par la police anti-migrants, boycottent la Corona et c'est toute l'industrie de la bière qui trinque.
Voilà, le monsieur s'appelle Guillaume Audin. Et puis, chaque mercredi, il y a Ilana Mor-Youssef. Qu'est-ce que vous avez lu ou relu pour écrire le monde, Ilana ?
Eh bien, de la politique de l'enfant unique à l'incitation à procréer, c'est en Chine que ça se passe. Et donc, un roman chinois.
À tout de suite, les amis. Le tour de la planète fait un détour d'abord par le soleil du Brésil avec Bebel Gilberto, Bim Boum, en hommage évidemment à son père. Bebel Gilberto et Bim Bom sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Pour aller sous les radars, il y a qu'à se baisser. C'est ce que fait Guillaume Audard tous les soirs.
If you want to understand how President Trump's immigration policies are affecting the broader economy, you can understand that through beer.
So, aux États-Unis d'abord, où la politique anti-migrant de Donald Trump a un impact direct, vous l'avez entendu, sur les ventes de bière.
Et son mauvais jeu de mots, c'est la gueule de bois pour cette industrie-là. Aux États-Unis, il y a une marque de bière très connue, Modelo. Elle était numéro un des ventes en 2023, très appréciée au sein de la communauté hispano-américaine. Sauf que depuis un an, c'est la dégringolade avec Modelo. Une autre marque trinque, si vous me passez l'expression, une bière plus connue des Français, la Corona. Leur point commun, c'est qu'elles sont toutes les deux mexicaines. Leur particularité, c'est qu'aux États-Unis, elles sont importées et distribuées exclusivement par une entreprise américaine, Constellation Brand, qui vacille littéralement en bourse, moins 40% cette année. En cause, la chasse aux migrants made in Trump. L'explication est simple. Les latinos, qui représentent 50% des consommateurs de ces deux marques, craignent plus que tout d'être arrêtés sans motif par la police de l'immigration, la fameuse ICE Police, et renoncent désormais pour beaucoup à leur six-pack, leur pack de bière.
Il pane disceso dal cielo ha sostenuto il nostro cammino.
Voici le timbre de Léon XIV que l'on reconnaît immédiatement. On reconnaît celui de tous les papes d'ailleurs. Au Vatican, le pape réunit pendant deux jours les 245 cardinaux du monde entier pour un consistoire extraordinaire.
Et cela signe sans doute les vrais grands débuts de son pontificat, son entrée en scène en tant que chef de l'Église romaine. Dans les faits, le pape réunit ses cardinaux autour des enjeux cruciaux de l'Église du 21e siècle, au-delà du stricto sensu religieux. On va citer celui de la gouvernance notamment, mais aussi celui de la parole du Saint-Siège et de sa portée dans un monde fragmenté. Objectif, rompre avec l'ère François à qui il était reproché de gouverner en petit comité. Imprimer un autre style, plus collégial, c'est le but, sans toutefois détricoter l'héritage de son prédécesseur, tourné vers les plus modestes, les réfugiés. Léon XIV est un homme qui guide les consciences d'1,4 milliard de catholiques à travers le monde, répartis essentiellement dans les pays du sud global, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, soit 4/5 de cette communauté religieuse, dont les aspirations, il faut bien le comprendre, diffèrent assez sensiblement de celles des catholiques d'Europe ou d'Amérique du Nord.
L'indignation de Luc Tuymans, c'est comme ça qu'il se prononce ?
Tuymans,
artiste belge de premier plan, ulcéré par un projet de démantèlement du musée d'art contemporain de la ville d'Anvers.
Et il n'est pas le seul à crier à la folie. D'autres artistes internationaux aussi célèbres, Kanish Kapoor, vous connaissez peut-être, ou Marina Abramovic, tentent de faire entendre leur voix et de peser de tout leur poids contre le déclassement du MHK, le plus vieux musée d'art contemporain de Belgique, situé à Anvers et qui abrite des œuvres extraordinaires. Les peintures de Luc Tuymans, qu'on a entendu, il est originaire d'Anvers, justement, les musées du monde entier s'arrachent son travail, hein. Le Louvre, par exemple, ou le Guggenheim à New York. Mais voilà que pour des raisons budgétaires, le gouvernement flamand entend transformer cette institution anversoise en un banal centre artistique, débarrassé de ses collections, lesquelles seraient transférées ailleurs en Belgique. Il y a toujours, derrière ce type de projet, les fantasmes d'un bureaucrate, rendre plus visibles les œuvres d'art, envers et contre tout, mais surtout à moindre coût, au risque de dépouiller une ville, envers, de son âme, le cœur battant de l'avant-garde belge.
Guillaume Audin, merci beaucoup. Le mercredi, Ilan Amor Youssef lit et relit au fil de l'actualité. Ça s'appelle Écrire le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Il en a depuis le 1er janvier, quelque chose a changé en Chine. Le gouvernement impose une taxe de 13% sur les préservatifs et autres moyens de contraception. 10 ans après avoir abandonné sa politique de l'enfant unique, le pays est confronté à une très grave crise démographique. Il pourrait passer de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à 633 millions en 2100. On a d'abord dit aux Chinois donc pas plus d'un enfant, ensuite on leur a permis d'en avoir deux et puis trois, mais les choses évidemment ne sont jamais aussi simples.
Oui, car le désir d'enfant, ce n'est pas comme appuyer sur un bouton on ou off, c'est un peu plus complexe, et après avoir imposé aux Chinois pendant près de 40 ans d'avoir un seul enfant, on ne peut pas leur dire tout à coup d'en avoir plus. La preuve, je l'apprends par nos confrères de l'AFP, c'est qu'il y a en Chine beaucoup de DINK.
Et alors qu'est-ce que c'est ça les DINK ?
Alors les DINK, c'est un acronyme devenu viral sur les réseaux sociaux chinois. Il signifie, vous me pardonnerez l'accent, Dual Income No Kids, et désigne les couples à double revenu sans enfants. J'ai donc choisi de parler ce soir d'un roman chinois contemporain, L'Hôtel du Cygne de Zhang Weiran, dont le personnage central est justement un enfant unique, mais un enfant unique dont les parents ne s'occupent pas du tout, comme l'explique Laure Leroy, l'éditrice française du roman.
C'est un petit garçon qui s'appelle Dada, qui est élevé par sa nounou. Les parents sont riches, les grands-parents sont riches, bref, tout le monde est riche, mais ils sont tellement riches qu'ils ne sont jamais là. Donc tout va tourner autour de ce petit garçon, sachant que la nounou elle-même, du fait de son statut de nounou, n'a pas d'enfant, n'a pas pu en avoir. Le seul enfant qu'elle ait, c'est cet enfant, Dada, qui est le sien et qui n'est pas tout à fait le sien non plus.
Alors l'hôtel Lucigne, en fait, c'est une sorte de satire très douce de la société chinoise moderne et de ses conflits de classe. Quand le roman s'ouvre, la nounou, Yuling, décide d'emmener le petit garçon en pique-nique, mais on sent vite que quelque chose cloche dans cette expédition. Et alors que l'inquiétude monte, un bref coup de fil et un flash d'information à la radio font basculer l'histoire. On est encore au premier chapitre et c'est le coup de tonnerre.
Ils repartirent sur l'autoroute.
« J'ai faim !»
fit l'enfant.
« On est bientôt arrivé !»
répondit Yuling. Dans le silence qui s'ensuivit, une voix féminine donna les informations.
« D'après l'agence Xinhua, le camarade Shen Xinzhang a fait l'objet d'une enquête pour faute grave. Né en 1950, Shen Xinzhang est entré au parti en juillet 1980. »«
Papi, papi !»
se mit à hurler le petit, cria Yuling. Le volume de la radio fut poussé d'un cran. Et Monsieur Courge et Yuling se penchèrent comme un seul homme vers les haut-parleurs.
Il s'agit du premier membre de l'administration provinciale à faire l'objet d'une enquête cette année.
Ça veut dire quoi, faire l'objet d'une enquête ?
Personne ne lui répondit.
Ça veut dire quoi, faire l'objet d'une enquête ?
Redemanda-t-il en fixant les nuques silencieuses des deux adultes assis devant lui. Yuling finit par tourner la tête vers lui et répondit.
Ne t'inquiète pas, ton grand-père doit juste aller à une réunion.
Tout seul ?
Reprit l'enfant. D'habitude, le nom de son grand-père était cité en même temps que beaucoup d'autres. Et c'était la première fois qu'on lui a collé le mot « camarade ».
Donc lecture signée Clémentine Sabrier et Victor Vasseur. Merci beaucoup à tous les deux. Ilana, la disgrâce du grand-père entraîne la chute de toute la famille.
L'enfant et la nounou rentrent donc dans une maison vide et vidée de ses objets les plus précieux. Le père a été embarqué, la mère est envirée à Hong Kong, elle n'est pas prête de revenir. Le chauffeur s'est enfui, la bonne s'est enfuie. Il reste donc la nounou et le petit garçon, seuls et sans moyens, dans la maison déserte. Mais ils ne vont pas rester seuls très longtemps, car surgissent plusieurs personnages, surtout des femmes d'ailleurs, dont chacune porte un secret, un désir enfoui, un échec, la maîtresse d'école au cœur brisé, la petite amie du père, en tout cas elle se présente comme telle, qui elle ne peut pas avoir d'enfant, la nounou d'un enfant du voisinage. Chacune illustre à sa manière la violence sociale à l'œuvre dans cette société et son paradoxe. Ceux qui ont un enfant ne s'en occupent pas, ceux qui voudraient en avoir un ne le peuvent pas, car ils n'en ont pas les moyens. Face à cette rudesse implacable, c'est le petit garçon, Dada, qui trouve la plus belle des réponses, avec son hôtel du Cygne, et je ne veux pas trop en dévoiler ici, un lieu, cet hôtel du Cygne, donc c'est un lieu où ceux qui n'ont pas d'amis sont toujours accueillis. Car le roman de Zhang Weiran n'est pas seulement un roman social, c'est un roman où la vérité des émotions vous fera fondre le cœur.
Allez, ça s'appelle l'Hôtel du Cygne. Ilana, merci beaucoup. Signé Zhang Weiran, évidemment, les références, elles sont sur le site de l'émission. Traduit du chinois par Lucie Mode, et c'est aux éditions Zulma. Merci beaucoup.